Chers amis, nous allons donc nous entrons dans le temps de culte. Un mot pour vous dire que nous manquons de feuilles de culte, que quelques personnes n'en ont pas. Donc s'il y a des personnes qui sont venues à deux, si vous pouvez partager et faire bénéficier des personnes qui n'en ont pas vos feuilles de culte, ce sera très gentil. Merci. La joie et la vie, la paix et le courage nous sont donnés par celui dont la présence monte maintenant dans nos cœurs, celui dont l'Esprit passe entre nous pour nous réunir en communion les uns avec les autres. Bienvenue à chacun et à chacune pour ce culte. Que vous soyez présents dans le temple, ou à distance par le moyen des réseaux sociaux, habitués de ces lieux ou venant pour la première fois, bienvenue à vous. Bienvenue les enfants de l'école biblique, du pré-caté, du caté. Bienvenue, oui, à Abel et à Jacob qui vont nous accompagner pendant ce temps de culte. Nous pensons à Simon et à Noah qui sont retenus ailleurs ce matin. Et puis, bienvenue aussi à Nicole et à Nouni Gigliotti. Bienvenue à leur famille et à leurs amis. Ils sont venus ce matin parce que voici 50 ans que Nicole et Nouni sont mariés. Alors aujourd'hui, c'est une fête pour eux, une fête de gratitude, d'espérance et d'amour. Et ils ont voulu la célébrer au foyer de l'âme, où Nicole est à l'œuvre dans bien des domaines depuis de longues années. Nous partageons votre joie. Bienvenue à vous. Et je vous invite à vous lever pour invoquer l'Éternel en chantant le premier spontané.
Oh.
Et nous restons debout pour le temps de la louange dans laquelle Abel va nous conduire.
Éternel, nous lançons notre joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. L'aile de la nuit s'est éloignée et nous nous réjouissons dans la lumière. Merci, ô Dieu, pour les joies que tu nous donnes et d'abord pour celle d'exister. Nous sommes dans la joie ce matin avec les oiseaux, avec les anges. Comme eux, nous chantons. Comme eux, nous nous offrons à ta grâce. Nous nous sentons vivre et nous te bénissons. Ô Éternel, notre Dieu, ta création nous réjouit, ta bonté nous anime, ta générosité nous encourage. Tout amour nous met le cœur en joie, toute fidélité nous émerveille, toute solidarité nous énergise. Pour chacune de ces traces vivifiantes, dans notre existence, nous te rendons grâce.
Pour les enfants présents ce matin, pour leur rire, leurs questions, leur vitalité, pour l'espérance qu'ils sont pour toi et pour nous, nous te louons, Éternel. Pour Nicole et Nouni, pour leur compagnonnage et leur famille, pour leur talent, leur solidarité, pour le passé et pour l'avenir de leur couple, nous te louons. Éternel, tous les jours par ta grâce, c'est Noël, c'est Pâques, c'est Pentecôte. Alors nous lançons notre joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Voici un jour qui brille, qui étincelle, qui éclate de bonheur à cause de ton amour. Amen. Et nous poursuivons la louange en chantant au psaume 92, choisi par Nicole. Au psaume 92, « Oh que ces choses belles », les strophes 1, 2, 4 et 5.
Thank you.
Nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies avec ces quelques versets de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5. Ces paroles que Jésus adresse à la foule et à ses disciples. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi aux yeux des hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous nous recueillons chacun et ensemble dans la prière et nous nous présentons à Dieu tel que nous sommes. Éternel mon Dieu, il y a de l'obscurité autour de moi, des malheurs, des misères, des horreurs, des peurs. Alors je me cogne, je tremble, je me sens paralysée, je me trompe, je ne sais où je vais. Et autour de moi, je heurte, j'abîme, je casse. Éternel mon Dieu, il y a de l'obscurité en moi. Ce que je ne connais pas, ce que je ne comprends pas, les idées toutes faites, la peur de mal faire, les blessures, la rancune. Alors je me replie, je me referme. Je coupe, je brise ce qui me relie à d'autres et je m'absente à ce qui m'entoure. Et à celles et ceux qui sont près de moi. Éternel, mon Dieu, j'ai besoin d'un peu de lumière. J'ai besoin d'y voir un peu plus clair. J'ai besoin de toi. Amen.
Thank you.
Je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon. Il est une lumière qui chasse l'obscurité. Il est une lumière qui donne de l'espoir et nous procure de la joie. Il est une lumière qui nous donne la force de relever les défis de la vie. Cette lumière veut et vient briller en nous, avec nous, à travers nous. Cette lumière nous aide à être les témoins de l'amour qui tient le monde. Cette lumière est vie et signe de vie. Cette lumière, Jésus le Christ, brillera toujours. Amen. Nous allons chanter au cantique 266 pendant le chant « Les enfants vont regagner leur salle ». Et ceux qui le souhaitent peuvent venir devant si vous vous trouvez trop au fond. Les enfants emportent les coussins. Nous chantons donc au 266 « Ô Jésus, mon frère ». Asseyez-vous. Nous prions avant de lire dans les Écritures. Sans ta parole, ô notre Dieu, Nous serions oiseaux sans ailes, puits sans eau, nuit sans lune, désert sans oasis. Par ton esprit, puissions-nous recevoir ta parole à travers les mots de la Bible comme la vie de notre vie. Amen. C'est Nicole qui a souhaité que nous écoutions aujourd'hui le texte que je vais lire dans l'Évangile selon Matthieu, une petite parabole, mais j'ai pris les quelques versets au-dessus aussi, Nicole. C'est donc dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 7, les versets 21 à 27. C'est la fin du discours sur la montagne. C'est donc Jésus qui parle. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons parlé en prophète ? Par ton nom que nous avons chassé des démons ? Par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. C'est une très bonne idée de proposer ce texte aujourd'hui, Nicole, parce que, en plus, les paraboles, c'est le thème de l'année de Caté cette année. Donc, ça, c'était vraiment très bien. Et quel bonheur ! Quel bonheur, quelle chance que Jésus ait autant parlé en paraboles. Des paraboles, des images, des métaphores, des comparaisons évocatrices, des indicatifs qui ne figent pas dans un programme prédéfini. Bref, tout un langage poétique qui donne de l'espace, qui donne du temps, qui inspire et qui laisse respirer, qui libère, qui interpelle. Les paraboles, ces petites histoires qui ne sont pas des démonstrations ni des modes d'emploi de l'existence, ouvrent des chemins de pensée, d'interprétation, de quête, de vie pour nos existences. Au foyer de l'âme et au caté, nous ne prétendons pas apprendre à Abel, à Jacob, à Simon et à Noah et à aucun autre et à personne ce qu'il faut croire, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire. Mais ici et au caté sont offerts en partage des lectures, des expériences, des propositions, des réflexions, des témoignages, autant de ressources mises à disposition des jeunes, des enfants et de tous, afin que chacun puisse tracer son chemin, afin que tous puissent construire leur maison. Pas une maison pour y loger, bien sûr. La maison, dans la parabole, c'est une image pour parler de notre vie et de nous-mêmes, de ce que nous construisons de nous-mêmes. Une maison, un chez-soi, comme un soi. La maison, là où nous logeons, c'est un lieu important, un lieu de repos, l'endroit pour se retrouver soi-même, le lieu de la famille, plus largement lieu d'accueil pour les amis, pour les proches, pour toutes celles et ceux que l'on reçoit. C'est-à-dire que c'est en même temps un lieu intime et un lieu ouvert, avec un seuil qui fait frontière, qui fait passage entre chez soi et l'extérieur. Notre soi, nous-mêmes, nous sommes comme une maison. Un lieu intérieur, d'intériorité, d'intimité, mais qui n'est pas coupé d'autrui et de l'extérieur. Il y a des communications, des ouvertures. Être, ce n'est pas qu'une affaire personnelle, individuelle. Être, c'est toujours être au monde, en présence, en relation et en responsabilité. En grandissant et au fil du temps, nous devenons de plus en plus conscients de l'ampleur et parfois de la complexité de ces relations qui nous relient avec les autres et même parfois d'autres que nous ne connaissons même pas. C'est donc dans le registre existentiel que s'inscrit la parabole des deux maisons, comme d'autres paraboles d'ailleurs, quasiment toutes, je pense. Deux hommes construisent leur maison. Un homme sage ou avisé construit sa maison sur le roc. Un homme fou ou insensé construit la sienne sur le sable. Alors, je vous invite à trois considérations sur les maisons avant d'en arriver en quatrième point au roc et au sable. Ce qui est commun pour les deux maisons, c'est que la pluie tombe et tombe en si grande quantité qu'elle provoque des torrents. C'est que le vent souffle et souffle tellement fort que c'est une tempête. Tous les êtres humains ont à affronter la pluie et le vent. Il ne s'agit pas de phénomènes météorologiques, mais d'épreuves et de catastrophes qui affectent chacun et qui ne sont pas toujours prévisibles. Des deuils, des maladies, des échecs, des blessures. Cela ne dépend pas de notre intelligence, de nos capacités, de nos forces, de notre richesse, ni même de la chance. Et même si nous pouvons parfois nous y préparer, nous ne pouvons pas les éviter. Et grandir, c'est aussi prendre conscience de cette dramatique de l'existence que Jésus le Christ ne passe pas sous silence, qu'il a lui-même affronté jusqu'à en mourir sur la croix, lui qui a été tué par la tempête d'un pouvoir religieux décidé à se maintenir en place et à éliminer celui qui le mettait en question. Le deuxième point, c'est que construire sa maison, son soi, eh bien c'est l'aventure de tout humain. Tout le monde construit sa maison, la maison de son soi, de lui-même. Ce n'est pas réservé à quelques-uns qui seraient privilégiés, favorisés. Avisés ou insensés, sages ou fous, tout le monde construit son chez-soi. Ces deux figures de l'homme avisé et de celui qui est insensé, sont présentes dans l'ensemble des Écritures. Déjà dans la Bible hébraïque, dans les psaumes par exemple. Dans l'évangile de Matthieu, les deux figures reviennent dans une autre parabole à l'autre bout de l'évangile, une parabole très connue aussi, celle de 10 jeunes filles invitées à une noce, dont 5 sont avisées ou sages, car elles ont pris une réserve d'huile pour leur lampe. Et 5 ne le sont pas, elles n'ont pas pris de réserve et leur lampe s'éteindra avant l'arrivée du mari. Ou encore dans le même évangile, la parabole du serviteur avisé qui veille pendant que son maître est absent. Est avisé celui ou celle qui voit plus loin que l'immédiat de ce qui est à voir. Est insensé celui ou celle qui ne veut pas savoir ou prévoir, avec une courte vue limitée à son intérêt propre et souvent immédiat. Avisé ou insensé, cela tient dans les Écritures, pour les Écritures, à la conscience de chacun, ouverte ou pas, à la présence de Dieu, à sa parole de vie et pour la vie. Et cela sans préjuger de la manière dont la parole de Dieu se fera entendre dans la conscience ou dans l'âme de chaque personne. Les deux hommes, celui qui est avisé et celui qui est insensé, construisent leur maison. Et c'est dire aussi qu'il y a de la place pour tout le monde, aussi bien sur le sable que sur le roc. Et la place sur le roc n'est pas non plus réservée à un cercle plus ou moins grand d'heureux élus. Personne n'est exclu. Personne ne peut interdire à qui que ce soit de construire sur le roc, parce que le roc n'appartient à personne. Et puis, troisième point concernant les maisons. Dans la parabole, il n'est pas question des matériaux de construction ni d'un plan d'architecte à suivre pour bâtir la maison. Que ce soit une cabane ou un manoir, peu importe. Qu'elle soit en bois, en pierre, peu importe. La parabole, ce n'est pas l'histoire du loup et des trois petits cochons, à laquelle vous avez peut-être pensé en l'écoutant. La construction est libre. Jésus ne donne pas de mode d'emploi. Nous construisons, chacun construit, nous construisons avec ce que nous recevons, avec ce que nous découvrons, avec ce qui nous façonne, avec ce qui nous tient à cœur. C'est peut-être pour cela que cette parabole des deux maisons plaît beaucoup aux futurs mariés, qui se projettent dans une construction conjointe d'amour à bâtir sur du solide pour une longue vie commune, un amour qui tiendra bon malgré les tempêtes de la vie. Bien sûr, les évangiles, par le témoignage qu'ils rendent à Jésus le Christ, rendent conscient de l'importance de la confiance, de la quête de justice, de la compassion, de l'amour, de la gratitude, même si aussi l'ego s'en mêle et la peur avec, et des illusions auxquelles parfois nous tenons beaucoup, beaucoup. Mais nous évoluons, nous changeons, nous sommes transformés d'une part par nos expériences de vie, et aussi nous sommes transformés lorsque nous laissons la parole de Dieu agir en nous. Nos constructions ne sont pas figées. Le soi n'est pas immuable. Être, cela ressort d'une dynamique, et pas seulement à l'adolescence, quand on cherche comment se construire. Notre vocation d'humain, ce n'est pas d'être à mi-donner tout raide. Et les paraboles, avec leur langage poétique, leurs images, leurs métaphores, leurs associations inattendues, leurs comparaisons évocatrices, tout ce que je signalais au début, les paraboles visent à l'élargissement et à l'assouplissement. Elles s'émancipent du contrôle et du statique et nous permettent d'en faire autant pour nous-mêmes. Les paraboles parlent d'un devenir. Elles ouvrent à un devenir. Et même une parabole de maison met en chemin un chemin de réflexion, d'interprétation. Et le chemin est plus important que l'arrivée. D'ailleurs, nous ne sommes pas obligés d'arriver. En Église et au cathé, nous pouvons faire un bout de chemin ensemble, amicalement, respectueusement. Alors venons-en maintenant au roc et au sable. Construire sur le roc ou construire sur le sable. La parabole donne à comprendre que ce qui importe, c'est ce sur quoi la maison est bâtie, ce sur quoi les fondations reposent, ce dans quoi elles sont ancrées, c'est-à-dire ce qui assure la solidité de la construction. Le roc, c'est du solide, c'est fiable. On peut faire confiance. Dans le Premier Testament, le roc, c'est une image pour parler de Dieu. Par exemple, le roi David confesse que Dieu est pour lui comme un roc. Ou encore, un psaume dit « Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, leur libérateur ». C'est le psaume 78. Le sable est instable, mouvant, fuyant. Il est certes plus facile de construire sur le sable que sur le roc. Mais cette facilité est celle de l'inconscience, de la paresse ou du déni, rien qui soit fiable. Elle est celle de l'illusion, de l'hypocrisie, de la volonté de plaire ou de l'égoïsme, toutes choses contre lesquelles Jésus de Nazareth ne cesse de mettre en garde parce qu'elles ne permettent pas de dynamique vivifiante pour une existence et qu'elles enferment soi et les autres dans des systèmes d'esclavage. Jésus le Christ, lui, annonce la libération. Il proclame la grâce qui délivre, qui relève, qui réveille, qui ressuscite. Nous sommes libres de bâtir notre maison, mais sur quoi ? Qu'est-ce qui oriente notre être au monde ? Sur quel terrain construisons-nous ? Sur quoi appuyer notre être qui l'assurera même dans la tempête ? Cela veut dire que ce n'est pas nous qui nous assurons. Nous construisons sur ce qui va nous tenir et nous faire tenir bon. Non pas nous mettre à l'abri des tempêtes, des épreuves, des catastrophes, mais assurer le soi de notre être indépendamment de qui nous sommes, indépendamment de ce qui arrive et qui peut nous blesser, nous altérer, nous affecter. Avec la parabole, Jésus nous donne à comprendre que ce qui soutient vraiment l'être humain, c'est Dieu avec nous, qui nous tient vivants. Et la confiance en son œuvre, en sa parole, conduit à construire notre maison sur lui, à appuyer, à reposer notre être sur lui, sur son amour pour nous, sur sa confiance en nous, sur son espérance envers nous. Et une autre manière de le dire, c'est ce que Jésus affirme dans les versets précédant la parabole. Il ne s'agit pas de dire « Seigneur, Seigneur !» mais de faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Et il ne s'agit pas non plus de se donner bonne conscience et grande valeur en disant « Regarde, Seigneur, tout ce que nous avons fait de bien !» Seulement, faire la volonté du Père. Ou encore, écouter les paroles de Jésus et les mettre en pratique. Et cela n'a rien à voir avec une morale, même excellente. Les paroles de Jésus sont des interpellations qui visent à éveiller la conscience, à réveiller l'âme, à relever l'être. Il n'y a pas de catéchisme ni de doctrine à retenir et à appliquer. Écouter, c'est interpréter ce que l'on entend pour comprendre comment et en quoi cette parole de Jésus me concerne, nous concerne. Et ensuite, c'est interpréter, dans l'autre sens, interpréter dans ma manière d'être ce que cette parole écoutée m'inspire. Et il n'y a là rien d'automatique. Faire la volonté du Père, c'est déjà tâcher de ne pas la confondre avec la nôtre, comme malheureusement il nous arrive de le faire. Affirmer que la volonté de Dieu c'est ceci ou cela, et surtout encore plus l'imposer à d'autres au nom de Dieu, sans en douter, sans se poser de questions, sans se remettre en question, c'est une tentation, hélas, bien répandue. Avec les paraboles, grâce aux paraboles et à d'autres textes de la Bible, nous pouvons comprendre que la volonté de Dieu, c'est que nous recevions la vie vivante. C'est de laisser Dieu agir en nous et ainsi grandir, chacun et les uns avec les autres, en humanité, en liberté, en responsabilité. Et il n'y a pas d'âge pour arrêter de grandir de cette manière. Car sincèrement, franchement, ne construisons-nous pas notre maison à la fois sur le roc et sur le sable ? à la fois en écoutant la parole de Dieu, les paroles de Jésus, à travers les paroles de Jésus, et en écoutant d'autres voix, bien d'autres voix que la sienne. Ne construisons-nous pas à la fois par la confiance en Dieu et par le souci de nous-mêmes? Alors parfois, des coins de nos constructions vacillent et des morceaux s'effondrent. Mais rien n'est terminé, ni pour les jeunes, ni pour les moins jeunes. Et nous pourrons toujours construire et reconstruire sur le roc, sur la parole fiable, avec confiance. Amen.
Thank you.
Voici le moment de la confession de foi. Je vous invite à vous lever. Je crois en Jésus, Fils de l'homme, Fils de Dieu. Et par lui, je crois en Dieu, un Dieu d'amour, créateur et libérateur. Par lui aussi, je crois en l'Esprit qui veut féconder nos esprits. Je crois en Jésus de Nazareth, Fils de l'homme, Fils de Dieu, le Christ. Il a répandu paroles et gestes d'amour, vivant lui-même cet amour jusqu'à l'extrême, jusqu'à donner sa vie. Et son amour a vaincu la mort. Le Christ est ressuscité. Par lui, je crois en Dieu, un Dieu d'amour créateur et libérateur, qui nous invite à entrer dans son projet pour le monde, un univers réconcilié dans sa multitude et sa diversité. Par lui, je crois en l'Esprit qui veut féconder nos esprits pour la réalisation de la volonté de Dieu, la vie en abondance pour tous. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, ciel et terre seront unis pour la plus grande joie de tous. Amen. Des annonces en ce dimanche. D'abord pour vous dire que une nouvelle liste de produits particulièrement demandés par l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement est affichée dans l'entrée. Donc vous pouvez vous y référer pour apporter dimanche prochain, la collecte a lieu chaque dimanche, quelque chose qui sera ensuite transporté à l'épicerie solidaire. L'épicerie solidaire soutient maintenant plus de 160 familles. Et donc, elle a grandement besoin de notre soutien et apprécie particulièrement, c'est la responsable qui nous en fait le retour, la diversité et la qualité des produits que nous apportons. Bien sûr, on peut apporter autre chose que ce qui est indiqué sur la liste, mais pas de produits en vrac. Les sachets doivent être scellés. Aujourd'hui, c'est la reprise de la cantate du premier dimanche du mois d'octobre. Ce sera la cantate BWV 130 à 17h30 dans le temple. La reprise pour donc la dernière année du cycle de toutes les cantates de Bach. Mais ce ne sera pas terminé, il y aura autre chose après. Mais en tout cas, cette année, c'est quand même une année exceptionnelle. Et la cantate de cet après-midi est particulièrement éclatante. Trompette, cymbales, un chœur splendide, enfin voilà. Je vous signale aussi que vous trouverez sur la table au fond du temple ces petits flyers rouges. Ils signalent la prochaine réédition par les éditions Van Dieren du livre de Raphaël Picon, Tous théologiens, un livre qui avait paru il y a quand même un certain nombre d'années. Ce livre va être réédité, donc avec une nouvelle préface, et l'éditeur Patrick Van Dieren nous en propose une souscription avant donc que l'édition sorte dans le commerce. Cette souscription qui permet d'acquérir le livre au prix de 12 euros. Vous est possible, il suffit d'indiquer votre nom clairement sur le petit papier et de me le remettre, je vais centraliser toutes les commandes, avec également le prix auquel le livre est vendu. Donc voilà, ça va durer quelques semaines en octobre, donc vous pouvez y penser pour un prochain dimanche, mais voilà, ce livre, Tous théologiens, est extrêmement, non seulement accessible, mais intéressant pour cette pensée qui nous transporte comme capable de parler et de parler de Dieu. À signaler aussi, avant de passer aux annonces de la semaine qui viennent, le samedi 14, la visite du Père Lachaise protestant. Hervé, tu veux en dire quelque chose ? Puisque c'est toi qui l'organise, qui l'a mise en place et qui commentera cette visite.
Bonjour et bon anniversaire au premier rang. Donc nous avions déjà effectué une visite du Père Lachaise au printemps. Il s'agit à travers cette visite de faire la relation entre l'histoire du cimetière et l'histoire de la communauté protestante parisienne et même au-delà, donc de découvrir environ une trentaine de sépultures emblématiques de personnalités connues ou moins connues, avec des aspects un petit peu symboliques, qui montraient vraiment à l'approche, on va dire, spirituelle qui est la nôtre. Donc cette visite se déroulera de 14h à 16h, donc le samedi 14 octobre, au Père Lachaise. Le rendez-vous est à l'entrée principale, boulevard de Ménilmontant. La dernière visite, nous avions pu faire ça en groupe à 20-25 personnes, ce qui est l'idéal. Au-delà, ça devient un petit peu compliqué. Même si on a droit à 5% de pertes dans les allées du cimetière, c'est toujours risqué, puis ce n'est pas très audible. Donc il est fortement conseillé de vous inscrire au mail pasteur@foyerdelame.fr. Voilà, et donc n'hésitez pas, venez nombreux.
Merci. Donc s'inscrire par mail. Et s'inscrire aussi si vous souhaitez participer à la visite de l'exposition Van Gogh au musée d'Orsay, qui est organisée par Fabrice Calais, conférencier des musées nationaux. Il faut également m'envoyer un mail pour s'inscrire et la visite est également limitée à 25 personnes. Voilà, elle aura lieu le jeudi 19 octobre à 17h. Le rendez-vous pour la visite est à 17h. C'est le seul horaire que nous avons pu obtenir pour une visite de groupe, pour cette visite. Donc il faut aussi m'envoyer un mail pour ça. Alors, si vous voulez faire les deux, le Père Lachaise et Van Gogh, s'il vous plaît, envoyez-moi deux mails, parce que ça va être déjà un peu compliqué. Pas que j'oublie, pas que je mélange, donc merci. Deux mails séparés pour ces visites. Mais je voulais aussi vous signaler... samedi 14, on revient un peu en arrière, samedi 14 au soir, il y a une déambulation qui est organisée par les différentes communautés religieuses du 11e arrondissement de Paris. Ça s'appelle Traverser la nuit. Il y a des affiches et des tracts au fond du temple. Et il s'agit donc dans la nuit, dans la soirée, alors ça s'arrêtera à minuit, d'aller dans différents lieux emblématiques du 11e arrondissement, l'église Notre-Dame d'Espérance, la synagogue de la rue Moufle, le palais de la femme, l'escale. Nous n'y participons pas cette année parce que le temple était déjà réservé pour un concert, mais j'espère bien qu'on pourra y participer l'année prochaine. Et dans chacun de ces lieux, bien, il peut y avoir de la musique, de la poésie, des échanges. Il y a un atelier de calligraphie aussi, hébreu et arabe, à la synagogue, je crois, de la musique klezmer, je pense, à l'escale. Il y a un QR code sur lequel qui vous permettra d'avoir tout le programme, de faire votre sens de visite. Et il y a également un site internet que vous pouvez consulter donc, pour cet événement qui rassemble plusieurs communautés religieuses du 11e arrondissement. Et c'est une première et ce sera passionnant. À noter aussi dans vos agendas, c'est un peu plus loin, mais comme il faut également s'inscrire, la journée du christianisme social, une journée organisée par la commune du christianisme social, la commune parisienne. Cette année, le thème de cette journée qui se tient à l'Institut protestant de théologie, avec la participation du professeur François Vouga, que nous connaissons ici, et les membres de la commune du christianisme social, la commune parisienne, c'est « Penser le bien commun ». Voilà, vous avez également des cartes. Au fond du temple, il y a le mail sur lequel il faut s'inscrire pour les questions de repas et d'organisation. Et j'en arrive aux animations et aux activités de la semaine. Mardi à 17h, il y aura une réunion du bureau du conseil presbytéral. À 18h30, j'interviendrai à l'escale, justement, pour un partage biblique avec la femme aux longs cheveux qui oint de parfum les pieds de Jésus dans un repas très comme il faut. Et le jeudi prochain, à 12h30, ce sera la pause biblique dans le temple, comme tous les jeudis. La pause spirituelle, oui, merci Nicole de votre vigilance, la pause spirituelle. Donc une heure de silence, de méditation, de prière et de musique, de 12h30 à 13h30. Et le soir, ce sera le ciné-club avec la projection de La Malédiction des Pharaons. Et vous avez les affiches dans l'entrée ou à l'extérieur du temple. Samedi, c'est la reprise du groupe Ciel et Terre qui se réunira à 10h30 dans la salle du deuxième étage. Pendant qu'il y aura, je vous le signale, à 10h ou 10h30, je ne sais plus, une visite du temple par une association catholique d'art et foi. Depuis que le temple a été inscrit au monument historique, il y a des demandes de visite et ça permet de le faire connaître. Et c'est toujours des rencontres agréables et instructives. Et puis dimanche 8, bien sûr, il y aura le culte à 10h30. Et ce culte sera suivi du repas des JMJ, les jeunes et moins jeunes, un repas où l'on peut venir librement, sans inscription, en apportant quelque chose à partager ou pas, si on n'a rien. Et à ce repas des JMJ de dimanche prochain, nous écouterons notre amie Micheline Baucher-Lemilon nous parler de la CIMAD. Voilà. Et puisqu'il y a les parents des enfants d'école biblique, du pré-caté, etc., je vous signale que, donc, je confirme que la réunion qui était prévue ce matin sera reportée au dimanche 15, la prochaine session des réunions d'école biblique de pré-caté à 9h45, une rencontre d'information avec les parents, mais vous recevrez un mail d'information d'ici là. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Eh bien, voici le moment de l'offrande. Que votre don soit libre et joyeux, pour que ce soit un don du cœur, un don de bonheur. Et le signal que le panier connecté est en service. Pendant l'offrande, nous allons nous lever pour chanter au cantique 284 « Ta volonté, Seigneur mon Dieu ». Prenez place. Nous nous rassemblons dans la prière d'intercession. Éternel, sur la terre, dans le monde, nous avons besoin de gens qui soient sensibles aux peurs de leurs semblables et qui les encouragent. Nous avons besoin de gens qui respectent les différences des autres et ne se laissent pas guider par des préjugés. Nous avons besoin de gens qui s'engagent, même quand c'est difficile. Éternel, nous avons besoin de gens qui nous invitent à nous mettre en route. Nous avons besoin de gens dont le but est de se mettre en chemin ensemble. Nous avons besoin de gens qui invitent à raconter, à discuter, à expliquer. Éternel, nous avons besoin de gens qui ne nous laissent pas tomber et qui prennent soin de nous. Nous avons besoin de gens qui se laissent toucher par toi, qui rendent ton amour visible, palpable. Éternel, peut-être pouvons-nous être de ces gens-là. Par ton esprit, par ta parole, agissant, œuvrant en nous. Aujourd'hui, nous te confions Abel, Jacob, Simon et Noah. Dans cette année de caté, puissions-nous être pour eux des amis accueillants et attentifs, des témoins de ta bonté. Nous te confions Nicole et Nouni et leur famille, et que leur joie demeure encore et encore. Et nous prions avec les mots que Jésus le Christ a donnés à ses disciples pour chaque jour de la vie, en disant ensemble à voix haute ou dans le secret du cœur, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. » Et je vous invite à chanter un cantique de plus. C'est le cantique qui est associé à la cantate, qui sera jouée ici cet après-midi, la BWV 130. Et Fred me signale que la mélodie est la même, mais pas le rythme. Alors si vous venez... écoutez la cantate, eh bien vous reconnaîtrez quelque chose, mais pas tout à fait ce que nous allons chanter maintenant. C'est le psaume 134.
Thank you.
invite à rester debout pour entendre l'exhortation, puis nous chanterons le dernier spontané avant la bénédiction. Et l'exhortation, ce sera le début de ce discours sur la montagne dont nous avons déjà entendu deux extraits ce matin. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Amis, frères et sœurs, de là où nous sommes jusque là où nous irons, le Christ nous accompagne. De ce que nous sommes à ce que nous deviendrons, par l'Esprit, le Christ nous éclaire. Des généralités que nous disons, au signe de la grâce que nous posons, le Christ nous encourage. Et ainsi, Dieu nous bénit. Amen.